Avant, je donne le micro, peut-être pas ce micro, à Horacio, juste une très courte pensée. Luc chapitre 8, peut-être on va parler de ça demain soir. Luc chapitre 8, nous avons la parabole de semeur. Et en bref, il y a 4 types de cœurs dans cette parabole. Premier cœur dans ce passage, et un cœur, c'est bien sûr, je parle de le terrain, donc la terre. Et pour ceux qui sont habitués de l'agriculture, on voit les fermiers qui sèment, on voit peut-être on est jardinier ici dans la salle ce soir, donc ils très bien connaissent ça. Il y a une semence. Et juste savoir que cette semence représente la parole de Dieu. Et donc, ça, c'est en verset 5 jusqu'à verset 8. Également après ça, en verset 11 jusqu'à verset 15. Il termine là. 4 types de cœur. Premier cœur, c'est la terre, c'est le chemin, en fait. Donc, c'est un cœur dur. C'est un cœur qui ne peut pas recevoir la parole de Dieu. C'est un cœur, ancien cœur, pas sauvé. Deuxième cœur, oui, on parle maintenant d'un croyant. Et on parle de nouveau de l'ancien cœur. On parle de la roche. Donc, en fait, c'est le rocher avec aucune profondeur. Donc, avec joie, la parole est reçue. Mais c'est dans l'ancien cœur, donc rien ne peut passer ici, en réalité. Le troisième également, c'est intéressant de voir ça, que ce cœur, ancien cœur d'un croyant, pas le nouveau cœur, cette personne recevra la parole de Dieu, mais les soucis, les richesses, les troubles, les distractions de la vie étouffent la parole. Donc la parole arrive, mais c'est étoufflé. Ça, c'est des épines. Représenté par les épines. Et le quatrième, c'est un cœur qui est honnête. Honnête et bon. Ça, c'est le nouveau cœur. Le nouveau cœur est un cœur de chair, en Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Et l'idée, là, c'est un cœur doux, un cœur comme un terrain qui était brisé, tourné, afin que c'est ouvert pour s'aimer. En fait, on voit avec les fermiers, il coupe, il tranche, il tourne la terre, le croûte de la terre, afin que c'est ouvert maintenant pour la semence. Donc, il faut casser, il faut briser un peu. Mais ici, l'idée que c'était déjà préparé. Et donc, bien sûr, nous avons une plante, nous avons une profondeur, et nous avons une plante qui grandit. Avec la stabilité de la racine, et après ça, les fruits poussent. C'est arriver à la maturité. Donc, la clé, Jésus a dit, il faut écouter, faire attention. Qu'est-ce que vous écoutez? Et faire attention également à quelle chose. Donc, la manière on écoute est importante. Et à quelle chose on écoute est également important. Avec ça, je vais terminer. Donc, c'est un nouveau cœur ce soir. Préparer d'écouter avec le nouveau cœur, de recevoir avec joie et de voir une croissance. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire encore merci. Oui, Seigneur, nous voulons avoir ce cœur qui reçoit ta parole et ce cœur aussi qui se laisse transformer et ce cœur qui porte des fruits pour la gloire de ton nom. Et on te demande, Seigneur, que ce soir tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses nous encourager, que tu puisses, Seigneur, tout simplement, sens-toi libre, Seigneur, pour parler à travers moi et que tu puisses nous donner à chacun une portion bien précise. Et on te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'entends un peu comme un creux bol. Comme un bocal. Excusez-moi, les zoomois. Est-ce que ça va là? Vous m'entendez bien? Ok, bon, je vais essayer de ne pas écouter ma voix. Alors, vous vous rappelez, dimanche passé, Pasteur Tony, donc il a parlé de la ligne rédemptrice. Il a fait un petit survol des textes bibliques, hein, ce qui est très édifiant. Pasteur Texier, il a parlé aussi dans les temps des hommes et dans le col pastoral sur la persévérance. Et j'ai hésité un peu, donc je me suis lancé ce défi de parler de psaume 23. C'est un psaume qui est plus que connu. Et je pense que dans tous les films qu'on voit, chaque fois qu'il y a un enterrement, on reprend toujours le même verset, le verset 4. « Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre, de la mort, je ne crains aucun mal, etc. etc. » Alors, avant de lire le psaume, je vais juste mettre un peu dans un autre contexte le psaume 23. Déjà, le psaume 22, le verset 1, il commence, ça nous parle bien évidemment de ce que Jésus-Christ a dit à la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ensuite, nous avons le psaume 23, qui est le psaume de cœur de berger, mais en même temps, on peut l'appeler aussi le psaume de la brebis. Et nous avons aussi le psaume 24, quand il parle « qui est ce roi de gloire ?» C'est assez surprenant, on peut... Oula, j'entendais tout dans mon oreille. C'est un peu surprenant. On voit Jésus-Christ qui est sur la croix, qui est le bon berger, et nous, en fait, par la suite, après la résurrection, qui est ce roi de gloire, le psaume 24. Mais revenons au psaume 23, lisons-le, parce qu'il y a 6 versets. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, bien évidemment, comme le verset 1 nous parle, donc c'est un cantique de David. On peut se dire, c'est surprenant que David, qui était berger, qui a vécu cette chose, qui a délivré des brebis de la main de l'ours, de la main de lion, comme on voit dans 1 Samuel, chapitre 16. Et il dit, voilà, j'étais berger avec un cœur tendre, mais non seulement j'étais berger, mais je me considère aussi comme une brebis, comme je considère Dieu comme mon berger. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on sait qu'une brebis, j'ai noté ça, une brebis est un animal obstiné et stupide. C'est pas des bonnes nouvelles ce que je vais vous donner pour le moment. Incapable d'échapper à ses prédateurs et démuni de tout moyen de défense. Elle a donc besoin d'être protégée. Et le psaume 23, vous allez me dire, c'est presque logique. Si on n'est pas considéré, si on ne se considère pas comme des brebis, on ne peut pas le vivre. Parce que tu ne peux pas dire, voilà, je suis le berger, ceci ou cela. Non, je dois me considérer comme une brebis. Regardez, Hébreux 13, 10. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des bergers, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, le grand berger. Ensuite, rentrons un peu dans le psaume et parlons quelques petits points. J'en ai quelques-uns, mais je vais être assez court. Parce que je pense que des fois, il vaut mieux être court que trop long et voilà. Déjà, le psaume, il dit l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. C'est surprenant. La brebis qui fait confiance à Dieu en disant, c'est le regard de la foi, je ne manquerai de rien. Parce que je me considère comme cette brebis, je considère qui est mon berger, je sais que mon berger donne sa vie pour ses brebis, pour ses amis, Jésus-Christ. Je sais que mon berger, il est toujours là. Je peux le dire par la foi, je ne manquerai de rien. Comme Jésus nous dit dans Jean 10, 14, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. 2 Pierre 1:3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés pour sa propre gloire. Nous avons tout, mais je peux le dire dans le monde tel que je suis, dans mes circonstances, uniquement avec le regard de la foi. Et je peux, autant que brebis, confesser cette vérité, comme nous avons entendu Luc chapitre 10, croire la parole, la recevoir. Et la parole, Dieu me dit quoi? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Hébreux 13, 5. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6, 33. Donc, autant que brebis rachetées, en faisant confiance à mon berger, par la foi, je peux dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Je ne manquerai de rien. J'ai pas noté la référence, mais ça me fait penser juste à l'instant. Je sais plus où c'est marqué. Avez-vous vu le juste manquer de son pain? Non. Ça, c'était juste le premier point. Très court, vous avez vu, hein. Le deuxième point, il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Alors, que vous sachiez un peu comment ça fonctionne une brebis. Quand une brebis est allongée dans la prairie, c'est qu'elle est rassasiée. Tant que la brebis n'est pas rassasiée, n'a pas le ventre bien tendu, il continuera à faire l'effort de manger. Et là, il me fait reposer dans les verts pâturages. Le repos, c'est quelque chose de particulier pour la vie d'un croyant. Pourquoi? Parce que sans le repos, je ne peux entendre la voix de Dieu. Sans le repos, je ne peux voir comment Dieu est agissant. Prenons un exemple. Par exemple, dans Luc 10, 40, verset 40. On a les deux sœurs. Il y a une des sœurs qui s'appelle Marthe, qu'elle a un cœur de serviteur. Je ne sais pas si ça se dit au féminin. Servante, très bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Marie, on peut dire, elle est au pied de Jésus. Elle est en repos. Et Marthe, qu'est-ce qu'elle vient? Elle dit, Seigneur, excuse-moi, mais elle est gonflée, ma sœur. Moi, je fais tout. Elle est en repos. Qu'est-ce que Jésus dit? Elle a choisi la bonne part. Vous savez, un autre passage. Quand il y a les 12 disciples, en fait, on a été avec les autres, qui viennent vers Jésus, ils disent, waouh, Seigneur, nous avons chassé des démons, nous avons fait des miracles, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? Jésus les prend à part. Venez au repos. Posons-nous un peu. Et une brebis qui court à gauche et à droite, elle ne peut pas être dans le repos. Et nous, dans nos vies, c'est pareil. Quand on regarde au niveau des circonstances, un peu comme Pierre qui Jésus lui dit, vas-y, marche en ma direction. Il voit quoi? Il voit les circonstances. Il voit les vagues. Qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas être en repos. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Zacharie 4, verset 6. Seigneur, j'ai besoin, et sincèrement, je ne parle même pas des circonstances dans lesquelles le monde y passe. Mais si on ne choisit pas de se poser au pied de Jésus, de recevoir cette semence, Luc chapitre 10, ben notre cœur il est troublé. Est-ce que vous pensez que Dieu nous a appelés à vivre en étant troublés? En ayant sans cesse peur? En se laissant, empoisonné par les émotions que la société nous donne? Ah, t'as vu? Lui, il dit vrai. Lui, il dit pas vrai. En étant comme le peuple avec Élie au Mont Carmel, qui cloche des deux côtés, en écoutant des mauvaises voix. Non, Dieu ne nous appelle pas à ça. Dieu nous appelle à vivre par la foi, en marchant par la foi et non par la vue, mais Dieu nous appelle aussi à se poser à être comme ces brebis en disant, ah, je vous donne un exemple. On a un chat, Bella. Elle a un truc particulier, c'est qu'elle mange, elle se lave, et qu'est-ce qu'elle fait? Au soleil. Et sur la coule douce. C'est ça que Dieu attend de nous. Pas qu'on soit la coule douce dans le sens que je ne fais rien. Ah non, Dieu a dit, je dois être en repos, je ne fais rien, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas lire la parole. Non, c'est juste, Seigneur, ok, il y a des choses qui troublent mon cœur. Je choisis déjà de les déposer. Je choisis même de les faire un peu plus tard, comme Marthe. Est-ce que Jésus lui a fait la remarque? Oh là là, Jacqueline, ta maison, elle est sale. Non. Jésus parlait, Jésus échangeait, et disait quoi, Jésus? Ben, Marthe, viens, assieds-toi. C'est ça la particularité d'une brebis. Tant qu'elle est, quand elle est rassasiée, c'est à ce moment-là qu'elle se repose. Et nous, en tant que des brebis, nous avons tout reçu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça qui nous comble. C'est ça qui nous donne vraiment aussi le repos. Et c'est ça qui... Quand j'entends la parole de Dieu, comme Luc chapitre 10, et qu'elle tombe dans la bonne terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas angoissée. Oh là là, aujourd'hui, j'ai reçu une promesse de Dieu. Oh là là, qu'est-ce que je suis angoissé? Non! Entendons, mélangeons-la avec la foi, et vivons dans le repos, parce que c'est dans le calme et le repos que sera votre force. Prenons un autre point. D'ailleurs, combien de fois, des fois il y a certains parents, vous savez, ils voient les enfants qui courent à gauche, à droite, et qui commencent à leur dire aux parents, oh, et puis les parents, ils n'entendent pas. Ils disent, oh, arrête-toi, repose-toi, et parle. Échange avec moi. Et nous, des fois, on fait avec ça, avec Dieu. Tu vois, tu commences à dire un truc à Dieu, mais tu pars. Arrête-toi. Arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. Une brebis doit vivre en repos. Troisième point. Il restaure mon âme. Et c'est vrai. Comment on sait que c'est un bon berger? C'est quand il prend soin de ses brebis. N'est-ce pas? La prospérité d'un troupeau honore son maître. Mais bien évidemment, il faut que les brebis aient confiance. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Pourquoi on suit le Seigneur? Pas juste parce que nous sommes dans le repos, mais parce qu'on fait confiance. Pourquoi on se fait baptiser? Parce qu'on fait confiance à ce que Dieu a dit. Je comprends peut-être pas tout. Pourquoi je prends des cours bibliques? Seigneur, je ne suis pas un théologien. Je n'ai pas appelé des théologiens. J'ai appelé des cœurs disponibles. Pourquoi je vais à l'évangélisation? Et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Simplement parce qu'on fait confiance à celui qui nous a parlé. Et non seulement on lui fait confiance, mais vous savez, la restauration, je vais vous donner une petite image. Quand on tombe dans le péché, c'est extrêmement rapide. Quand on se décourage, c'est extrêmement rapide. Quand on laisse le doute envenimer notre cœur, c'est extrêmement rapide. Mais la restauration prend de temps. Je vais vous donner un exemple. Vous vous rappelez dans 1 Roi chapitre 19, Élie, il a la grande victoire avec les 400 prophètes de Baal. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a, pas Isabelle, mais il y a Jézabel. Il le menace. Et qu'est-ce qu'il fait? Sauf qu'il peut. Il va dans une grotte. Au départ, il va avec son serviteur. Il est son serviteur. Non, non, je veux rien. Je veux être isolé. Je veux aller déprimer dans mon coin. Mais la restauration que Dieu a amenée, ça a pris un peu de temps. Dieu, il a amené la nourriture. Il réveille Élie. Lève-toi et mange. C'est peut-être une étape de sa restauration. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est endormi. Dieu revient une deuxième fois. Lève-toi et mange. Vous voyez, Dieu, quand il fait un travail de circoncision, c'est-à-dire de couper avec précision, c'est vraiment quelque chose de profond. Parce qu'il aurait pu très bien. Ah bon? T'as péché? Ciao. Mais ce n'est pas le cœur de notre berger. Le cœur de notre berger, c'est de prendre soin de ses brebis. Pas juste physiquement. Ah Seigneur, tu prends soin de moi parce que j'ai un toit, parce que je peux manger, parce que je peux payer le loyer, etc. Mais spirituellement également, nous pouvons vraiment vivre comme des nés de nouveau. Parce que notre berger, il sait exactement les besoins que nous avons physiques et spirituels. Et c'est pour ça que dans Matthieu 6, 34, ne vous inquiétez pas de lendemain, ni physiquement, ni spirituellement. Élie, il n'avait pas besoin peut-être de la... Il avait besoin certainement de la nourriture physique parce qu'il était isolé, il n'avait rien. Mais quand Dieu lui a parlé, sors de cette grotte. Cette douce voix, cette tendre voix, il restaure notre âme. Et nous, dans notre... parfois dans notre marche chrétienne, on peut se détourner de Dieu. On peut se détourner même violemment. Mais on peut croire que notre berger nous restaure. On veut croire, et on peut croire, on le voit dans les textes bibliques, que notre berger, peu importe où on y va, comme David il a dit, même si je fais mon lit aux portes de l'enfer, tu es là. Tu es là. Tu me relèves. Tu m'appelles à toi, tu m'attires dans le désert par des cordages d'amour. On a un berger qui nous aime. La restauration prend de temps, c'est vrai. Mais rappelez-vous ce verset Philippiens 6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, l'achèvera et la rendra parfaite. C'est notre berger, c'est Jésus. La suite. Lorsque je marche ou quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Déjà, le mot marcher, ce n'est pas lorsque je marcherai, c'est lorsque je marche, présent. Et qu'est-ce qui se passe? Un berger, il allait, il sortait ses brebis, etc. Il a laissé toute la journée. Sauf que quand il y a l'obscurité qui arrive, ou la fin de la journée, ben, il faut les appeler, les conduire dans des enclos. Comme Jésus dit, je suis la porte, pour qu'elle soit protégée des bêtes féroces. Les brebis, voilà, t'as mangé, t'as brouté toute la journée, ben là, il faut rentrer dans un vallée qui est long, il y a de l'ombre, il n'y a plus le soleil comme il y a quelques heures. Et qu'est-ce qui se passe? Parfois, les brebis, elles se serrent les unes les autres, elles ne comprennent peut-être pas tout, elles ne voient peut-être pas tout. Et pourtant, elles suivent le berger. Et vous savez, le berger, il avait ce qu'on appelle, on appelle ça, comment on appelle ça? La hulette et ton bâton me rassure. Alors, c'est quoi une hulette? Une hulette, c'est une sorte de grand bâton. Et en fait, en haut, il fait comme une boucle. Et en fait, il y avait deux possibilités. Le bâton, c'est vraiment pour frapper l'animal qui venait attaquer. Mais la partie arrondie, c'est quand la brebis est tombée quelque part, en fait, tu pouvais, avec une forme comme ça, tu pouvais récupérer la brebis. Et c'est pour ça qu'il dit, ta hulette et ton bâton, ma compagne, c'est vraiment dans le sens qu'il y a l'autorité. S'il y a quelqu'un qui vient nous attaquer, Dieu intervient. De la même manière que David, il n'est pas allé avec les mains vides en disant, coucou, salut le lion, salut l'ours. Il est allé avec son bâton de berger. Et quand une brebis tombait et que tu sais, des fois, c'est comme tu perds quelque chose, il y a un truc qui tombe et tu n'as juste pas assez de, comment dirais-je, t'as pas assez, la distance elle est juste un peu trop longue et tu n'arrives pas à récupérer. Mais avec ce bâton-là, pas de souci, tu récupères ta brebis. Et c'est comme ça que Jésus nous a récupérés. Quand il dit, voilà, il laisse les 90, les 99 qui sont en sécurité, je vais aller chercher celle qui est perdue. Le bâton, l'autorité, mais aussi avec cette partie arrondie pour la chercher. C'est fabuleux. On a un berger qui nous aime. On a un berger qui est venu nous chercher dès le départ. Genèse chapitre 3, verset 9. Où es-tu? Oui, tu t'es perdu. Où es-tu? C'est fabuleux, n'est-ce pas? Mais voilà, se dire, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, hein? étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Donc des fois comme des, comment dirais-je, comme des brebis, on se pousse-toi, tu prends un peu trop de place. Mais on est sur le chemin de la vie. Et dans l'Église, parfois, quand l'Église traverse des situations comme ça, on se croit presque resserré. Oui, mais tu es sur le chemin de la vie. Il y a notre berger qui est devant. Rappelez-vous, quand Israël a été délivré de l'esclavage en Égypte, on voit ça dans le livre d'Exode, chapitre 12, la nuée les accompagnait. Quand ils étaient et qu'ils traversaient la mer, je ne pense pas que c'était vraiment la mer toute la largeur. C'était un chemin. Par contre, ils suivaient le chemin de la vie. Continuons. Tu dresses devant moi, le verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Alors, comme nous avons entendu il n'y a pas très longtemps, le mot table, ça nous parle vraiment de la communion avec le Seigneur. Mais il y a quelque chose de particulier. C'est que David, qui était berger, il était le roi d'Israël, il était le berger d'Israël, il avait l'autorité d'Israël. David s'est dit, voilà, je choisis d'être une brebis parce que mon Dieu est mon berger. Mon Dieu a autorité sur moi. Je veux qu'il ait autorité sur moi. Mais ce berger-là, il a conduit, il a restauré, il a protégé, il a guéri, il pourvoit à la brebis. Ce berger-là, il s'est fait une hôte. C'est-à-dire qu'il s'est fait quelqu'un qui sert, un serviteur. Rappelez-vous ce que Jésus a fait, hein, quand il a ôté ses vêtements et qu'il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Notre berger est devenu une hôte, celui qui invite au festin. Tout est prêt. Notre berger. Ah, vous avez vu le berger, ce qu'il fait? Humainement, je ne pense pas qu'il y a des bergers comme ça. Tu arrives, bon les brebis, vous êtes là, allez, c'est parti. Dans un sens, oui, parce que tu leur donnes de foin, tu leur donnes. Mais nous, on a un berger qui nous aime, un berger qui pourvoit nos besoins, un berger qui nous restaure quand on tombe. Regardez, c'est si simple. Quand on tombe dans le péché, 1 Jean 9, lève-toi et confesse. Si nous confessons notre péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous avons un berger qui nous a préparé une table en face de nos ennemis. Et nous, des fois, on est un peu comme Méphibosheth en disant, comme nous avons entendu il n'y a pas longtemps, « Ah, je suis désolé, j'ai des problèmes dans ma vie, je ne suis pas digne de venir à ta table, Seigneur. » Et là, je dis, mais c'est dommage, tout est prêt. Une fois que tu es assis, on ne voit plus tes pieds. Tu es une nouvelle créature. Quand je te vois, on nous a entendu le week-end passé, tu es parmi les fils, les enfants de roi. Pourquoi on se prive? Et dans nos conditions, dans nos situations, aujourd'hui dans lesquelles on vit, les adversaires, ce n'est pas forcément le diable et tout ça. Hein. Parfois, c'est aussi les situations, parfois aussi, c'est les relations. Les adversaires sont nombreux. Hein. Mais Dieu nous appelle à être en repos et à manger de ce qu'il nous a donné. Et quand Dieu cuisine, waouh, c'est quelque chose de... C'est fabuleux. La dernière chose. Oui, le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Imaginez quand on arrive au ciel. Plus de danger, plus de larmes, plus de maladies. On peut que dire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, maintenant et pour l'éternité. Quelques versets. Jean 14, 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ah, quelle promesse! Jean 14, verset 2. 1 Thessaloniciens 4, 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Apocalypse 1, 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Il y a beaucoup de versets par rapport à son retour. Mais qu'est-ce que tout ce, ce psaume 23, est-ce que vous pensez qu'on peut le vivre autant qu'un croyant? La réponse est oui. On peut vivre dans le repos alors que tout autour de nous, il y a des tremblements de terre. On peut vivre en constante restauration. Vous savez, plus on s'approche de la lumière, plus on découvre nos défauts. D'une façon ou d'une autre, plus on s'approche de Dieu, plus on découvre combien on est pourri, combien nous sommes vraiment des pécheurs. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire un travail de restauration pour te dire, oui, c'est vrai que ton ancienne nature, elle est tout ce qu'elle est. Mais moi, je t'ai donné une nouvelle identité. Je t'ai donné une nouvelle nature. Vis selon la foi, regarde selon la foi, fais les choses selon la foi. Lève-toi et confesse. Oui, mon Dieu pourvoira mes besoins. Et vous savez, quand on a cette attitude de brebis, comme je disais au début, c'est vrai que ça paraît simpliste. C'est vrai. Mais il y a eu dans la Bible aussi des brebis qui se sont égarées. Mais qui se sont égarées sévèrement. Mais heureusement qu'on a un grand Dieu qui sauve, qui vient la chercher. Prenons par exemple Samson, qui a compté sur sa propre force, qui n'a pas décelé les traits de l'ennemi, qui s'est séduit lui-même par sa beauté, par sa force, par tout ce qu'on veut. Mais au final, Dieu l'a restauré en donnant sa vie, c'est vrai. Il a perdu ses yeux, mais Dieu l'a restauré. Samson, il a compris que ce n'est pas ma force qui compte. Ce n'est pas ma grandeur, ce n'est pas combien de morts j'ai tué avec les Philistins. Seigneur, il n'y a que toi. Et j'ai oublié que la force que j'ai vient de toi. Vous prenez quelqu'un comme le roi Saül. Le roi Saül, il a un appel formidable. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse la peur. Il laisse l'incrédulité. Il y a Goliath qui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Sauf qu'il peut. Et c'est un gars qui était tellement... Il avait tout pour être heureux. Comme je disais le verset, nous avons tout reçu. Pourtant, il n'a pas choisi de vivre par la foi. Il n'a pas choisi de voir Dieu au-delà des circonstances. Il a oublié que Dieu lui a donné l'autorité sur le peuple. Et il s'est laissé, excusez-moi de l'expression, il s'est laissé bouffer par la peur. On en a d'autres, hein. Jacob, au départ, c'était une brebis qui n'était certainement pas docile. Mais Dieu a fait un travail remarquable. Tu ne t'appelles plus tricheur, magouilleur. Tu t'appelles, tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur Israël. C'est ça que Dieu veut de nous. Soyons des brebis. Apprenons à écouter la voix de notre Sauveur. Apprenons à écouter la voix de celui qui nous veut du bien, de celui qui nous a servi, non seulement par sa vie, par sa parole, combien de fois. Mais regardez, si on prend juste cette expression, est-ce que Jésus a traversé l'ombre de la mort? Oui. Dès sa naissance, on voulait déjà le tuer. Dès Jourdain jusqu'à la croix. C'est vrai que Jésus gardait toujours le même regard, la croix. Je veux donner ma vie pour mes brebis, pour mes amis, pour ma création. Combien de fois on a attribué tout ce que Jésus a fait au royaume des ténèbres? Ah non, toi t'es louche, toi. T'as un démon. Vous imaginez? Tout au long de sa vie, mais il n'a jamais perdu le regard, c'est sauvé. Christ a été immolé avant la fondation du monde. Et nous, aujourd'hui, en tant que brebis, la meilleure façon de traverser ce monde jusqu'à dans la terre promise, c'est porter nos regards sur le berger. Apprenons à écouter sa voix. Je comprends peut-être pas tout, c'est vrai. Je suis pas le plus parfait humainement, c'est vrai aussi. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que même si je marche sur des cailloux, je peux glisser, Parce que peut-être que les cailloux, les rochers sont humides. Mais on a un berger qui est là pour nous garder, pour nous protéger et pour nous secourir. Nous avons ce grand sacrificateur. On n'a pas un sacrificateur juste qui tue des, enfin, qui sacrifie des animaux. On a un sacrificateur qui a donné sa propre vie pour nous. Oui, aujourd'hui, nous pouvons dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Oui, Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. Un plan de paix, Jérémie 29, 11. Oui, je suis aimé de Dieu. Je suis accepté de Dieu. Je peux m'approcher du trône de grâce avec assurance. Ça ne s'adresse pas à une élite. Ça s'adresse à des brebis, des gens ordinaires. Est-ce que Dieu veut, c'est simplement, suis-moi. Qu'est-ce que Matthieu a fait? Il a entendu la voix, suis-moi. Ok Seigneur, je te suis. Tout le monde court après le bonheur. Oui, en se perdant avec des artifices, des choses qui peuvent paraître, comment dirais-je? Ouais, on peut dire des artifices. Mais Dieu nous appelle à une restauration profonde. Pas que c'est nous qu'on fait notre propre restauration, notre propre justice. Non, 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 c'est lui qui fait. Et David, qui avait déjà une autorité, quand il a écrit ce psaume, il dit, ouais, mais je préfère que Dieu soit l'autorité, que Dieu prenne le contrôle de ma vie. Et c'est ça. Mais voilà, le psaume 23, c'est vrai que c'est un psaume qui est souvent cité. C'est le psaume de cœur de berger. C'est le psaume de la brebis, comme nous. Mais nous, par la foi, on peut dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Oui, je peux expérimenter. Oui, je peux goûter les bontés de l'Éternel. Oui, je peux les voir qu'elles se renouvellent chaque matin. Je peux. Comment? Par la foi. Sans la foi, c'est impossible. Sans se dire « je suis une brebis », c'est impossible. Parce que dans la Bible, on ne peut pas juste dire certaines choses. Non, il faut prendre toute la parole. De Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Mais voilà, j'ai complètement changé ce que je voulais dire. Mais regardez, Romains 12,12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Philippiens 3, 14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » De Timothée 2, 12, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Et si nous le réunions, lui aussi, je ne sais pas, je me suis perdu. Voilà, « Si nous persévérons, un jour, nous régnerons avec Christ. » L'Éternel est mon berger. Et parce que l'Éternel, parce que j'ai fait ce choix d'accepter Jésus-Christ comme berger de ma vie, comme sauveur, comme ami, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. On va prier. Seigneur, merci. Merci d'avoir inspiré David avec ce psaume magnifique. Ce psaume, Seigneur, qui nous rappelle que nous sommes des brebis, fragiles, et que malgré notre faiblesse, tu montres ta gloire. Seigneur, merci tout simplement parce que tu nous encourages à te faire confiance, même si on n'arrive pas à tout comprendre. Mais tu remplis notre cœur de joie. Dans ta présence, il y a beaucoup de joie. Tu remplis notre cœur, Seigneur, de toi, de ta parole. Et je te demande, Seigneur, permets que nous puissions tout voir dans les domaines de notre vie. Permets, Seigneur, que nous te voyons et que nous expérimentons ta parole. Comme Job, chapitre 40, je ne sais plus, verset 5. Hein. Oui, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant mon oreille t'a vu. C'est notre prière ce soir, Seigneur, c'est que nous puissions expérimenter ta présence auprès de nous. Et Seigneur, je te demande que là où nous sommes, tu puisses simplement nous faire réaliser combien nous sommes précieux à tes yeux, combien nous avons de la valeur, combien nous sommes aimés, combien, Seigneur, tu prends soin de nous. Et comme le psalmiste a dit, mon âme, n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel, car ils sont nombreux. Merci tout simplement, Seigneur notre Dieu, pour le berger que tu es. Et merci car tu prends soin de nous. Et comme Ésaïe chapitre 40 nous dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Quand ils courent, ils ne se fatiguent pas. Quand ils marchent, ils ne se lassent pas. » Et ce soir, Seigneur, c'est notre prière. C'est se confier en toi, s'appuyer sur toi. On prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.